Samuel Mocha est un jeune artiste franco-tchèque installé à Prague où il a créé récemment avec un ami un atelier de restauration. Touche à tout, son travail d'art exploite différents matériaux, métal, terre, bois et lumière. Sa rencontre avec l'art, il la doit en partie à son père, le peintre Miloslav Mocha. Entretien portrait de Samuel Mocha par Anna Kubista.
Culture sans frontières.
Alors, c'est Samuel Mocha, grand artiste tchéco-français. petit travailleur, col bleu de Manesova. Je fais de la gravure depuis 15 ans maintenant. J'ai un petit problème de quadrisophrénie.
Qu'est-ce que c'est?
C'est la déclinaison de la schizophrénie. Donc je pense qu'on en est tous un peu les sujets ou les victimes. Et entre mon activité plutôt artistique et plutôt artisanale, parce qu'à côté, je vis de mes activités qui sont le bois, le métal, comme ça les matériaux bon, plus généraux, mais je veux dire de petits chantiers, de mobilier. Du coup, c'est pour ça que je parlais de schizophrénie avec les...
Différents matériaux et différentes façons de penser finalement.
Voilà, c'est ça.
Moi, je pense qu'on va y revenir un peu après. Alors justement, tu disais donc t'es artiste et aussi restaurateur, t'as un atelier de restauration. C'est une activité récente. Alors de ton nom, je dis Mocha, mais c'est aussi Mocha en tchèque.
Fly en anglais.
Donc franco-tchèque. Qu'est-ce qui t'a fait venir à Prague et rester à Prague?
La liberté, l'espace. La présence de la nature, évidemment, la bonne bière, les jolies filles, tous les arguments que n'importe quel anglais ou touriste connaît. Voilà, ce sentiment de liberté, ce sentiment de décider plus de sa vie que dans une mégapole, par exemple Paris, de laquelle je suis originaire, qui contraint plus, qui empêche finalement de se développer soi-même. On est plus une énergie de la ville qu'une énergie individuelle. Tandis qu'à Prague, on sent plus une sorte de symbiose entre des différentes individualités qui essayent de faire des choses par eux-mêmes. Et voilà, je trouve qu'il y a un plus gros engagement dans la vie, un plus grand plaisir à vivre.
Alors justement, tu parlais un petit peu de tes techniques, bois, métal, terre, lumière, c'est un peu ce qu'on peut voir d'ailleurs sur ton site internet, hein, où c'est très détaillé et on peut voir tes œuvres. C'est quasiment un peu les différents éléments, non?
J'ai cherché à essayer de rassembler, je suis assez symboliste. Je trouve qu'il y a des principes communs entre ces différents éléments et qu'on en fait souvent l'abstraction, enfin qu'on essaye de créer des repères en, comment dire, séquençant chaque élément dans des cases, en hiérarchisant ou en séparant les éléments et donc les principes pour travailler ces mêmes éléments. Alors que je pense que c'est la même chose. Je pense que les principes sont les mêmes. Un chantier, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être mettre un enfant au monde ou d'ailleurs mettre bas, etc. Il y a une notion de travail là-dedans. Il y a toujours une grosse préparation. Il y a toujours des difficultés sur la fin pour arriver, pour finaliser. Bon, voilà, c'est toujours le même truc. C'est la vie.
Alors justement, tu parlais de la gravure, tu disais que tu faisais de la gravure depuis à peu près une quinzaine d'années. Comment est-ce que tu es arrivé à la gravure sur bois, justement, qui est, disons, quand on regarde un peu ce que tu fais, peut-être une de tes activités principales?
Ouais, ça va être le dénominateur commun, on va dire, ou peut-être celui qui me fait le plus plaisir à réaliser. Comment je suis arrivé là? Mon père est artiste peintre.
D'ailleurs, on l'a interviewé sur Radio Prague il y a quelques années, c'est Miloslav Mocha.
Miloslav Mocha, qui m'a donné une gouge et une plaque de lino quand j'avais 13 ans ou quelque chose comme ça, au moment de la Saint-Sylvestre.
C'est un beau cadeau.
Et ouais, qui m'a dit, fais une carte de vœux. Et j'ai commencé donc par une carte de vœux avec Yann, mon petit frère, qui a fait une carte de vœux aussi. Donc, c'était la première intrusion dans le monde de la... du noir et blanc, pour le coup, donc de la gravure sur lino et sur bois. Et voilà, depuis, j'ai pas trop abandonné cet idéal.
Et qu'est-ce qui t'a séduit, justement, dans cet idéal, enfin, dans cette technique en particulier?
Je suis assez tranchant. D'ailleurs, je fais des couteaux, donc dans le choix, de mes décisions. Et j'aime bien, donc comme je disais, comme j'essaye de faciliter les choses pour pouvoir mieux se dépatouiller, et ben le noir et blanc me paraissait une belle métaphore de cette énergie de la vie. Bon, je peux reprendre le yin yang, etc. C'est un peu bateau, mais et donc je vois, c'est toujours ce binôme ou manichéisme ou entre le jour, la nuit, le voilà. Je pense que ça fait entièrement partie de notre humanité, et je pense que c'est un moyen de s'exprimer qui est plus facile que la parole, par exemple.
D'où la difficulté peut-être de le décrire par les mots aussi.
D'ailleurs. Voilà. Ouais.
Alors pour ce qui est de l'autre technique, ou l'autre matériau que tu utilises, c'est la terre, hein, et c'est une technique dont il va falloir que tu nous expliques un petit peu détail, le Tadelakt, et comment tu arrives à cette technique par laquelle d'ailleurs tu fais différents chantiers, type des salles de bain, des décorations, etc., qui sont très belles d'ailleurs.
Alors la terre, j'ai de nouveau cherché un peu à synthétiser, à savoir que par exemple le Tadelakt, c'est le Tadelakt, alors c'est le stuc marocain, qui est une technique qui a la chaux aérienne impure, donc pleine de silice, de restes de sable, de restes de toutes sortes, des mini fossiles, etc. C'est ce mélange qui vient de Marrakech qui en donne l'imperméabilité. Donc je suis entré dans les métiers de fresques, de stucs, etc., de décoration d'intérieur ou voire de création, même de lavabo, etc., grâce à cette matière ou grâce à d'autres matières qui sont des dérivés plus ou moins de cette technique. En 2006, quand je suis parti au Maroc, et voilà, je tombais un peu amoureux de cette rondeur, aspect ciré un peu, et couleur du Tadelakt, qui est un matériau magique, bon, qui était très à la mode il y a 5-10 ans, disons, en France. Plus tard ici, ou disons, il y a moins longtemps en République tchèque, qui m'a permis de surfer un peu la vague de... J'avais travaillé avec Design John Lee justement à l'époque, et on avait ramené ce matériau, enfin on était les premiers à le faire à Prague et en République tchèque, et on avait ramené ça au salon du... C'était Design and Interior à Vistavište, et ça avait vachement bien marché parce qu'on avait un stand avec du sable, enfin on faisait du thé à la menthe, on était en gel là-bas et tout, c'était bonne ambiance. Par contre, ça correspond pas vraiment aux critères de qualité tchèque, on va dire. Parce que le tchèque, qui est plus allemand ou plus à la Sinarnung dans ses chantiers, dans sa façon de voir la vie, et ben, a besoin que tout soit droit, a besoin que tout soit nickel, pas un poil, pas...
Oui, alors que le Tadelakt est beaucoup plus brut, beaucoup plus...
Brut et plus, ouais, plus rond, plus il y a des micro-fissures, il faut l'entretenir et... Et puis, c'est une technique des pays du Sud. Enfin, des pays du Sud, ça se pratique sur une latitude, on va dire, où on a des techniques ressemblantes au Guatemala et au Yémen. C'est pas tout à fait imperméable, faut bien le dire, si on l'entretient pas assez souvent. Voilà, quoi, il faut vraiment aimer, il faut vraiment...
quelque chose qui se travaille encore par la suite.
Ouais, Tadelakt, ça veut dire masser. Ça veut dire le fait de masser. Et au-delà du fait que quand ça s'applique sur un mur, le temps que ça sèche, etc., pendant la semaine ou en fonction, eh ben on rend la structure compacte avec un galet, avec un caillou. Il faut le masser aussi, au-delà de ce caillou, avec du savon El Beldi, comme ils disent au Maroc ou dans les pays arabes, c'est-à-dire du savon noir, du savon à base d'olive, vraiment l'ancêtre du savon, quoi. Et on doit le passer sur le Tadelakt, ce qui fait que ça désinfecte l'enduit de surface, ça le rend brillant, etc. Ça le rend plus imperméable, évidemment. Ça crée la patine de l'enduit.
Alors, tu parlais aussi tout à l'heure du fer. Hein, tu travailles aussi le fer. Comment est-ce que tu arrives à combiner un peu tous ces différents mondes?
Alors, le métal, l'acier, au départ, j'y suis arrivé grâce à... un ami de mon père, Wilfried Prager. Prager,
ça c'est le destin.
Qui est autrichien, franco-autrichien. Et c'était un ami à lui, Yves Pelker, qui habite dans les Cévennes, un coin paumé, le pont de Montvet, enfin un peu plus loin, et qui est coutelier et qui avait proposé à l'époque un échange. D'ailleurs, il le propose tous les ans un échange d'un apprenti. Il prenait un apprenti dans sa ferme parce qu'il vit en autarcie plus ou moins, il n'a pas de permis de conduire et tout. En échange de quoi, il lui apprenait à forger. Donc le matin, l'apprenti faisait la vaisselle, nourrissait les animaux, etc. Et l'après-midi, il forgeait des couteaux.
C'est ce que tu as fait ?
C'est ce que j'ai fait en 2002. Et depuis, je me suis installé ma forge. J'ai trouvé d'ailleurs au passage, en 2002, c'était les inondations à Karlín, en République tchèque et à Prague. Et à Karlín surtout, pour ce qui concerne Prague. Et j'y habitais avec mon ex-copine Martina. Et j'ai trouvé l'enclume dans la rue au moment de vider les caves, etc. Donc 140 kilos qui ne me sont pas tombés sur la tête.
Heureusement, mais qui sont bien tombés, en tout cas pour le coup.
Ah, qui sont bien tombés. Donc depuis, j'ai installé mon atelier et j'ai un peu de nouveau surfé une autre vague. C'est la vague du métal. Je voulais ajouter que je fais pas vraiment beaucoup de couteaux je fais plus beaucoup de couteaux parce que je suis pas trop l'ami des chasseurs ou des collectionneurs, ce genre de gens qui ont l'usage du couteau, qui achètent des couteaux. Mais si j'en fais, c'est pour les donner aux amis, parce que pour moi, le couteau exprime plutôt le partage. Je fais plutôt des griffes forgées ou des créations, d'autres moyens d'utiliser plus l'acier, mais du coup la ferraille, le fer. J'avoue que je le fais plus souvent à Paris ou en France parce que il y a moins de forgerons qu'ici. Ouais. Ici, il y a un sacré niveau.
C'est vrai ?
Ah ouais, un sacré niveau. Il y a beaucoup de forgerons, il y a une tradition qui est conservée, il y a un savoir-faire énorme au niveau du métal. Chapeau bas.
Pour terminer, est-ce que tu vas avoir une exposition ici en République tchèque ou en France dans les temps qui viennent ?
Aux éditions Autrement à Paris. Alors, je vise le mois de septembre, octobre, on verra. Et sinon, on verra pour ce qui est de Prague. Là, j'ai deux dossiers pour un antiquaire à Dlaždená et un autre antiquaire là sur les Nabřeží vers Mahanes, Advienne que pourra.